Bonjour, bienvenue sur Indie & Co, le podcast qui parle de développement de jeux vidéo indépendants et des gens qui sont derrière tout ça. Donc aujourd'hui, on est avec Blanche Maurice, une des premières personnes qui développe. On a eu beaucoup de designers, on a eu du narrative design. C'est la première personne, je crois, qui vraiment fait 100% du code.
Oui.
Voilà.
Oui.
Eh bien, moi, je suis François. Du coup, Blanche, et bienvenue sur le podcast. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. Plein de trucs, on a regardé ton CV avant de venir, on a fait nos devoirs.
Évidemment.
Et ouais, il y a tout ce qui est console développeur.
Yes.
C'est clair.
J'allais dire, un peu récent.
Ouais, voilà.
Pas tant
alors,
que ça.
On va pas se spoiler, ouais. On va commencer dans l'ordre. On aime bien faire un petit peu le topo de d'où est-ce que tu viens, de comment t'en es arrivé là. C'est quoi ton parcours avec le jeu vidéo en particulier? Tes premiers souvenirs de jeux vidéo?
Ça date sévère. Hein. Parce qu'en gros, je vais te dire, le plus vieux souvenir que j'ai, je devais avoir 3 ans.
Ouh.
Quelque chose par là.
Ah oui.
Ouais, c'est vraiment tout démarrage parce que je suis né en 92. Mon père a déjà un PC, donc Windows 3.1, les trucs
vrais,
l'ancienne, quoi. Donc tu arrivais déjà en fait à ton interface. La majeure partie du temps, c'était que du DOS, donc c'était un peu essayer de se dépatouiller pour comprendre qu'est-ce qui se passait, tout ça. Et ouais, je cherchais tout à l'heure en plus parce que ça m'a fait poser la question. C'est le premier jeu, c'était quoi? Et c'est BC Racers, hein. C'est un jeu qui est sorti en 94.
Ok.
Où sur la pochette, un kart avec deux personnages préhistoriques et t'as un T-Rex derrière qui court.
Ah oui.
Et je me rappelle que c'était de l'arnaque parce qu'en fait, quand tu jouais, il n'y avait jamais de T-Rex. Et ça, c'était la déception. Je me rappelle pour ça, en fait. C'est les premiers jeux vraiment démarrage quand même vachement tôt. Et tout PC en mode 3.1, 95, 98. J'ai eu la Game Boy offerte à Noël, donc du coup les Pokémon, Pokémon rouge bleu, tout ce qui est derrière, c'est PS1, PS2. J'ai esquivé la Xbox dans la manip.
Est-ce un mauvais choix? Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si c'est un mauvais choix.
Ça peut être bien quand même.
Je juge un peu quand même. Mais ouais, non, c'est ce truc-là. C'est qu'en gros, j'ai eu beaucoup d'expériences console, que ce soit portable ou salon,
okay.
En fait. Et en même temps, j'étais aussi passionné vraiment PC. J'ai passé mon temps dans les jeux vidéo, en fait, globalement, en grandissant. Et en même temps, j'étais vraiment à fond de balle aussi sur la question électronique, montage de PC, installation. Premier ordinateur, je crois, d'assemblée installé, ça devait être 8 ans, 8-9 ans.
Ah oui.
Voilà, donc je traîne ça depuis des décennies et où du coup, ça a complètement versé, en fait, dans ce que je fais, ce que j'ai fait derrière, quoi, et de là où j'en suis maintenant, quoi. Mais c'est ça, c'est une enfance entière à jouer au jeu. Par moments, c'était aussi la seule porte de sortie. Scolarité un peu complexe, tout ça, des problèmes au niveau sociaux.
Okay.
Et où, du coup, tu te retrouves à jouer, quand tu es sur World of Warcraft, typiquement, c'est OK, les gens, tu vas avoir une discussion, un point de départ neutre avec eux. Donc, du coup, tu n'as plus d'a priori, tu n'as plus de préjugés, tu vas pouvoir en fait trouver une communauté plus facilement, en fait, ce genre de truc. Et aussi, c'était un bon moment à passer en solo sur tout ce qui était RPG à l'ancienne, sur Super NES, sur 64, mais tout en émulateur pour le coup.
Okay.
Ce qui est assez rigolo, ça, c'est que j'ai joué à énormément de jeux d'avant que je sois né, mais genre, c'était toute la période, 10-14 ans, c'était émulateur.
Ouais.
Et où je trouve aussi que c'est un des gros avantages, je pense, de la scène d'émulation et qui m'a intéressé sur, OK, comment tu fais? Comment t'écris ça là précisément en fait? C'est pourquoi mon PC il se comporte exactement comme une console. Donc comment j'arrive à descendre là-dedans en fait?
Ouais.
Parce que c'est ouvre une porte en fait en termes d'accessibilité à tout le monde. Et de dire OK, t'as pas les moyens là maintenant, tu fais pas partie de la classe sociale qui sera capable de payer une console tous les ans, d'acheter les jeux à la sortie, machin, là. Je te donne quand même l'accès à la culture, à cet univers là en fait. Et où du coup, je trouve que c'est super important d'arriver à préserver ça. autant en termes d'accessibilité et même qu'en termes de pur archivage, en fait, de conservation. Mmh. Et c'est aussi une des voies par lesquelles, bah, encore une fois, ça a pointé sur « Ok, qu'est-ce que Blanche, elle fait en sortant du lycée ? Elle va programmer, elle va faire de l'électronique, elle va chercher en fait ce truc-là de comment je fais pour descendre au niveau de la machine et commencer à mettre, c'est pousser à avoir plus de plateformes à disposition, pousser à une plus grosse accessibilité globale en termes technologiques.
Ouais.
Et je trouvais que le jeu vidéo, c'est merveilleux là-dessus. C'est de te dire, on a un joyau de technologie, vraiment un truc qui est colossal en termes de technique. Et ce qu'on a décidé en tant qu'espèce de faire avec toute cette énergie-là, c'est de jouer, c'est splendide. Ouais. Et c'est pour ça, c'était aussi ça, ok, ton ordinateur tu assembles, tu installes, tu programmes, pour jouer, c'est important.
Ouais.
Que la finalité, ça soit ça. C'est un peu ce délire-là d'arriver du coup en mode, ok, je vais fermer les études de prog, et faire un diplôme d'analyste programmeur, derrière je suis parti sur une licence... Donc, tout dans le privé pour le coup, à dévier en gros. Ce que j'ai fait, c'est les études de prog, je les ai faites à Lyon. Okay. Derrière, je suis allé dans une école spécialisée dans le serious game.
Ok.
Voilà, l'Udus Academy qui était à Strasbourg.
D'accord.
Qui avait quand même un gros penchant programmation pour le coup. De toujours reprendre sortir des prototypes, arriver en fait à manipuler les moteurs directement, ce genre de truc. Et derrière, ça a été aussi une grosse période, un peu de traversée du désert en sortant de ça, en ayant les diplômes, en étant en mode « c'est trop cool ». Sauf qu'à ce moment-là, d'être déjà un peu présemment dans la communauté LGBT, d'être assez ouvertement trans déjà de base, et du coup de trouver un énorme mur en face en termes de recrutement, c'est une vraie problématique dans l'industrie qui a encore lieu. Et d'avoir ce truc-là de « Ok, tu fais 4 ans à te dire « Eh ben, on va faire candidature sur candidature, on va rester chez les parents, puis on va trouver un moyen de survivre, en fait. » Mais de chercher un peu partout comme ça, quoi. Au final, j'ai trouvé un premier emploi à Lille.
Ah oui, ça fait un peu loin, quand même.
Ouais, un chouïa.
Il fait plus froid, déjà.
C'était un peu comme ce qui arrive à tous les devs du jeu vidéo, c'est-à-dire, en ce moment, c'est premier emploi sur des jeux sur smartphone. Bon, la passion, c'était pas ça.
T'as pas trop les mains dans le cambouis, comme ça.
Ouais, c'est Unity, faire de la réalité augmentée, tout ça, machin. Donc, t'es déjà à plusieurs couches, en fait, d'écart avec la machine.
Okay.
Et quand même, d'arriver derrière, en fait, sur ce genre de projet, de dire... Ok, est-ce qu'on peut restructurer un peu la manière dont vous travaillez, de vous ramener un peu quand même sur le fait que vous avez un téléphone dans les mains. Donc, cette machine-là, il y a un peu de puissance en dessous. Faudrait que quand on appuie sur le bouton, on ne soit pas à 200 millisecondes, quoi. Qu'on descende à un micro et ce genre de truc, quoi. Donc, de ramener un peu, d'essayer de trouver un peu des petits détails comme ça dedans, mais de dire, ok, l'important, c'est je sais, mon but, c'est d'arriver à faire de la programmation à bon niveau. Descendre vraiment sur je veux les consoles, je veux le moteur, je veux arriver en fait à passer du temps là-dedans parce que c'est ce sur quoi je nerde en fait d'habitude, vraiment. Et en fait de dire je sais qu'il faut que je trouve une solution pour mettre le pied dans la porte, en fait un peu. Et c'est souvent ça la plus grosse difficulté d'entrer dans l'industrie actuellement, elle vient là-dessus, c'est de trouver un petit job qui soit pas forcément exactement ce que tu as envie de faire là tout de suite, mais de dire ok, on y va, on va commencer en fait à s'incruster, à remonter et pas lâcher en fait cette affaire là quoi. Donc c'est de passer ça de fil en aiguille. Derrière, je suis allé du coup bosser pour Outer Ways, donc qui était à Torigny Fouillard.
On connaît bien.
Voilà. Il y a un jeu qui est sorti avec qu'on a développé sur Godot. C'est déjà...
Cette expérience de Godot. Parce que on a des mixtes. les précédents ont des mixed feelings sur Godot.
Il y a une petite relation amour-haine en fait avec ce moteur. Parce qu'il y a des très bonnes promesses. de dire ok, open source, pas de royalties, hein, on arrive à dire ok, je te donne l'accès à l'intégralité du code du moteur, de haut en bas, donc tu peux le modifier à la volée, tu peux ressortir tes exécutables comme tu veux. Tu peux arriver au stade de ça, ça marche pas, c'est pas grave, je vais le faire. Ok, on va le modifier, on part avec quoi. Il suffit que j'investisse un peu de temps dedans quoi.
C'est genre littéralement l'équivalent de la soudure sur la sur le circuit imprimé quoi.
Un peu ouais, c'est de dire voilà, c'est au moins tu maîtrises en fait la pile de haut en bas et où tu es capable du coup de régler des problèmes que tu vas trouver en production, tu vas trouver des bugs en fait pendant la production du jeu et tu es en mode si je suis sur Unity ou sur Unreal, on est et encore Unreal, ils ont fait des efforts, maintenant on est en source ouverte sur Unreal. On arrive à recompiler le moteur, à modifier. Ça reste quand même un gros bébé, Unreal, là, derrière. C'est encore un autre problème. Mais où tu arrives, par exemple, à avoir ce même bug sur Unity, bah en fait, là, tu n'as plus le choix. Tu es obligé d'attendre que Unity, éventuellement, se mette à jour sur ce truc-là. Voilà. Ou l'autre solution, c'est bah, tu trouves un moyen de contourner. Tu ne corriges pas, tu contournes. Et là, sur Godot, c'était le gros bonus en fait, de Godot. C'était ça, c'était de dire « Non, le bug, je le vois. Je sais comment le corriger. On y va. » En fait, je vais pas avoir ce blocage-là en fait dans la prod, pas être obligé de faire un backflip au milieu, tout ça.
ça arrive. Voilà.
C'est ce truc-là. Et ouais, on a sorti du coup Comfortable Burden, du coup sur Steam. Bon.
Tu peux en parler peut-être en une minute.
Ouais, c'est un jeu qui à la base portait sur la charge mentale.
Okay.
Parce qu'on donc on était un studio intégralement féminin donc c'était ça faisait partie des sujets qu'on voyait très peu abordés dans l'industrie.
C'est vrai, ouais.
Les luttes féministes en fait sont souvent passées soit sous le tapis, soit c'est des quêtes secondaires dans les AAA, mais il faut passer la première quête secondaire, deuxième quête secondaire, la troisième là va commencer à discuter de il y a peut-être un problème sociétal, est-ce qu'on peut en discuter un peu? Juste un chouïa à 5 minutes sur 80 heures. Quoi. Donc nous, on était parti un peu sur cette idée de dire, ok, est-ce qu'on peut utiliser ça comme thème principal? Et on est arrivé donc à produire un petit jeu de puzzle, en fait, te dire, on a un appartement à ranger, à nettoyer, dans un temps qui est limité, et on joue tour à tour Madame Loutre, Monsieur Loutre, tout en 2D, vu en 3 quarts. Truc assez choupi.
Ouais, j'allais dire, le design est mignon, et ça lisse un peu le trait du fond du jeu. Mais ouais, c'est quand même très sympa.
Bon, on a essayé de faire de manière un peu douce. Bah, en fait,
c'est
de
plus
dire,
sympa.
Et ça, d'avoir quand même un minimum d'attrait visuel, graphique dessus. Mais en même temps, de dire, ok, la partie Madame Loutre est par défaut pas très simple et devient de plus en plus dure. Là où Monsieur Loutre, on est toujours en fait sur
Routine,
droite, quoi. Il n'y a jamais rien qui change. Et de ce petit sous-texte du en fait, il y a dans une vie, et entre autres dans une tâche ménagère, mais ça s'étend au-delà de ça, il y a des tâches qui sont à prendre en compte, à gérer, qui sont de la fatigue supplémentaire en permanence, et qu'on ne va pas attribuer de base en fait dans des relations hétérosexuelles normées, standards. Et où du coup, s'il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là, des constructions de cette question de la répartition des tâches, et que ça soit même de faire les courses, aller chercher les enfants, s'occuper des comptes, ainsi de suite, on se retrouve très rapidement à avoir une masse de travail invisible, et du coup, de ce poids permanent, en fait, de charge mentale, de ce poids permanent sur la pensée, à devoir, en fait, réfléchir à tous ces petits trucs-là en plus, et 90% du temps, dans les relations standards, vraiment sur la norme la plus basique, sans réflexion derrière, ça retombe sur la femme dans le couple, en fait. Et où, du coup, c'est quelque chose aussi qu'on voulait pointer du doigt.
Mettre en exergue.
On avait des expériences personnelles dans le studio, justement, de ce problème-là, de répartition. Et C'est même à la fin du jeu, on s'est permis, en fait, sur le dernier niveau, terminant complètement le jeu, de rajouter en fait des témoignages personnels, en fait. Dire, ok, voilà, c'est ce qu'on en pense, notre point de vue sur le sujet.
De l'équipe, du coup ?
Ouais, directement. Okay. De se dire, ok, est-ce qu'on peut quand même avoir un message aussi un peu explicite en bout de course ? Si tu allais jusqu'au bout, on aimerait quand même avoir un peu aussi cette discussion, que ça reste pas juste un jeu, en fait. Donc, ouais, c'était un peu cette volonté de faire un truc qui soit engagé et de sortir ça en mode, ok, on a utilisé un moteur open source, on essaye vraiment de dire, on va pousser un peu les franges de comment on produit les jeux d'habitude avec ça. Voilà. Donc c'était cette idée-là. Il y a un prototype aussi que j'ai fait en parallèle d'un autre projet donc, qui ne sortira jamais.
Mort dans l'œuf.
Voilà, donc ça, je ne peux pas trop en parler, mais voilà, c'était pareil sur des questions... de narration à travers différents puzzles du jeu de plateforme et de discuter de thématiques, là pour le coup, la vie d'une personne trans à travers l'école là, ça, et de devenir un jeune adulte, ainsi de suite.
Voilà. Okay.
Ça me fait penser d'ailleurs à Célène qui a écrit là.
Qu'on a eu
le scénario,
on
exactement.
Bien,
hein.
Qu'on a eu
Célène Tonon qui avait écrit le scénario pour ça. Mais du coup, voilà, ça c'était l'expérience à Outerways. Donc on avait un petit coworking posé à Torigné-Fouillard.
Une bonne expérience, quoi.
Ouais, c'était cool. C'était super cool. Et ce coworking, justement, a évolué. Parce que il a survécu, il a changé d'endroit, et donc c'est celui dont je fais partie actuellement, donc où on est posé pour le coup à Cesson, Sévigné.
On se rapproche un peu de Rennes.
Voilà.
Petit à petit.
C'est ça, c'est l'idée. Et donc dans ce coworking, effectivement, donc je faisais partie d'Outerways. En même temps, on avait de présent Triskia Interactive, on avait. Pixel Nest, en fait, Damien Mayence qui était là.
Qu'on va voir bientôt. Ah, ouais. Spoiler, non, j'ai non, spoilé tous les gens là.
Cœur avec les doigts, Damien. mais ouais, c'est, on a beaucoup de gens en fait. On a plusieurs studios divers. Donc des indépendants, on a des personnes aussi. On a une personne qui fait des trailers. En fait,
oh, cool.
Des trailers de jeux vidéo, du coup. Donc, qui a son autre entreprise, Ukyo, et qui bosse aussi pour Raw Fury. Et donc, moi aussi, c'est jeux pop. Hein. C'est comme cette personne, je suis aussi un peu ovni dans le tas, parce que tout le reste est indépendant. Et moi, j'arrive en mode, je bosse pour Microïd Studio Paris.
Et oui,
ouais.
Édité par Microïd, on est en première partie. Et ouais, c'est double A directement, en mode, bon, voilà, c'est juste que. On s'aime beaucoup dans le coworking, on apprécie énormément en fait juste travailler ensemble.
Donc vous avez un petit noyau qui se retrouve assez facilement, quoi.
Et c'est souvent qu'on va avoir différentes personnes de l'industrie qui sont de passage à Rennes, bon, soit venir faire un coucou, soit actuellement on a quelqu'un qui a loué un bureau pour un mois parce qu'il était juste revenu voir la famille, tout ça, donc profiter un peu justement d'avoir cette diversité à l'intérieur du coworking, ça encourage aussi à avoir des échanges, que ça soit technique, économique, que ça soit au niveau d'industrie ou même simplement.
Ouais, c'est plutôt des moments un peu informels où vous pouvez échanger, et puis ça change aussi les idées, j'imagine, de si par exemple tu es à fond dans ton taf et juste d'en parler, ça peut débloquer des choses.
Carrément. Carrément, c'était un des plaisirs aussi de pouvoir discuter pas mal avec Damien en termes techniques,
ouais.
De discuter programmation justement bas niveau, d'avoir cette expérience commune de portage sur les consoles, d'avoir touché un peu aux questions moteurs et descendre justement au niveau de l'OS, des trucs qui sont où tu as vite fait en fait de tourner en rond sur le même travail. Et d'avoir le projet ici, et où tu as besoin d'avoir quelqu'un qui arrive avec un point de vue complètement extérieur.
Un peu de recul et tout.
Exactement ça. Parce que c'est quel que soit l'endroit, en fait, quel que soit le niveau sur lequel tu vas travailler dans le jeu, que tu sois scotché au moteur en bas niveau ou que tu remontes à la surface sur la couche de jeu, tu auras toujours la même problématique de être un peu dans ta bulle à force,
bah oui, c'est ça,
et de ne pas voir en fait, deux, trois angles que tu aurais pu approcher, ainsi de suite. Quoi. Et savoir aussi prendre ce moment de pause de temps en temps, de dire ok, juste, relax.
Ouais, un petit break et puis voilà, on repart de plus belle. Quoi.
Exactement.
Carrément.
Ouais, ça doit faciliter d'être en remote, j'imagine.
Ouais, bah pour le coup, alors, pour MSP, on a donc MSP Micro-SUO Paris.
Comment ils sont venus te voir au début? Tu peux nous en parler ou...
Des contacts. Okay. Ça a ricoché entre des personnes du coworking, okay. Le Slack indé. Et justement, le directeur technique de MSP actuel qui cherchait quelqu'un pour le portage console. Mmh. Et donc, de fil en aiguille, c'est parti comme ça en fait. Ouais,
c'est une super opportunité.
Bah, carrément. C'est puis en plus. Moi, c'était le gros truc, c'est qu'on m'a embauché au démarrage pour le portage de Siberia The World Before, après un épisode de la licence.
El famoso.
Et j'étais en mode...
Oui.
Yes. Parce que ça, c'est vraiment les deux premiers, mais j'ai tiens près de mon cœur. C'est vraiment un énorme kiff. Et là, que le directeur me propose... on est en train de bosser là-dessus. Je ok, oui, bon déjà tu m'as vendu, c'est vendu de base en fait.
Et c'est que de l'assembleur, oh mon dieu.
Oh, ouais, alors quand même pas, mais ouais, c'était déjà, il y avait déjà dans la promesse de base du « ok, on travaille sur console ». Et j'étais en mode « ok, c'est, moi il n'y a pas de, à partir de là, il n'y a même plus de discussion, c'est vous me prenez,
c'est
moi.
Parti, pas besoin d'être payé.
Presque. Tu me donnes un carton, une Switch, ouais. du pâté, je te produis du code. Bon, allez, je troll un peu avec ça. Mais c'est vraiment, c'était une, de base, c'était une grosse promesse d'intérêt, de joie en fait à travailler là-dessus. Quoi.
Ouais.
Et de vraiment juste pouvoir nerder à fond de balle sur la Series et sur la PS5. Et j'ai nerdé bien comme il faut, donc on a fait le portage en 6 mois. Bon,
ça a
pas
vite,
de course.
Hein.
Oui, c'était très rapide. Du coup, sur le portage, d'un point de vue juste, prog, couche console, on était 5 du coup dessus.
Ok.
Sachant qu'en gros, on était 2 employés directement par MSP et on avait 3 consultants d'Unity qui nous ont aidés du coup là-dessus.
Ah ouais.
Parce qu'aussi, on était avec le module HDRP d'Unity, qui est sur la version 2020.3, et donc qui était un peu brut de décoffrage,
okay.
Pour le poser tel quel. Et donc, c'était un peu aussi pour Unity une occasion de dire, et c'est un petit cocorico sur la keynote Unity 2022-2023. C'était, on était dans les 3 projets cités en grand, en mode, ouais, les projets Unity HDRP, tout ça. Et parce qu'on a bien galéré dessus, mais on a aussi réussi à obtenir un résultat qui nous plaisait et où du coup Unity est bien engagé aussi pour dire ok, on vous fournit les ressources pour qu'on y aille, on pousse un peu le moteur quoi. Donc ça c'était cool, c'était super cool et ouais 6 mois c'était un peu au pas de course mais c'est rentré là-dedans. Le jeu est sorti sur PC en mars. La sortie commerciale sur console était en novembre. Et en fait, il y a... Donc là, je vais survoler un chouïa parce qu'il y a 2-3 problèmes de NDA
ouais.
Qui traînent derrière. Mais quand on porte sur console, en particulier pour Sony et Nintendo, Microsoft aussi va avoir ses demandes. Et on est sur une petite branche de ça. Il y a le processus de certification. Donc l'idée, ouais.
C'est fastidieux un peu.
C'est ça, c'est que quand on termine le travail, c'est pas terminé. C'est quand on a terminé le programme, qu'on l'a complètement débugué, qu'on a envoyé ça à plusieurs équipes de QA différentes, qu'on a tous les retours de rapports de bugs, tout ça, qu'on l'a bien poncé, on réserve un siège chez le constructeur, en gros, pour une date. Ils ont leur propre équipe en interne de testeurs, et ils vont tester un cahier des charges contre le jeu qu'on leur fournit. Si le cahier des charges n'est pas atteint, on n'a pas la certification, c'est retour à l'envoyeur, ouais. Et on recommence à la chaîne. Donc le truc, c'est qu'on n'a pas le droit de commercialiser tant que la certification n'est pas obtenue, en fait. Ça prend du temps.
Et j'avais posé la question, est-ce que ça donne pas un peu patte blanche le fait d'avoir déjà publié sur les stores, par exemple, chez Microids, ils n'ont pas une sorte de passe-droit
Non. Alors, il n'y a pas de joker certification.
La wildcard.
Non, c'est un mythe. Après, peut-être les premiers... Là, ma petite théorie, quand même, c'est que les premières parties chez Sony ont quand même 2-3 passe-droits. Mais là, on parle vraiment de Santa Monica et d'autres bestioles comme ça qui sortent God of War, ce genre de bestioles.
Ça va, ils peuvent se permettre.
À mon avis, eux, ils doivent avoir un petit chouïa. Mais j'en sais rien. Là, pour le coup, c'est du haut de ma tête. mais non, effectivement, non, on n'a pas de Joker certification. C'est pas j'aimerais bien, parce que par le moment c'est un peu stressant. vous avez un essai, si vous vous plantez, vous ratez la date de sortie sur le marché.
C'est en gros, le rétro-planning, il prend un sacré coup là.
C'est un peu foufou. Donc il y a quand même pas mal de pression à avoir une build qui soit propre et de bien réfléchir en fait en amont dans ta production de ok. Comment j'oriente en fait tout le programme pour arriver à passer ce cahier des charges. Parce qu'il y a des trucs aussi qui vont être un peu méchants dans les tests. De manière célèbre, en industrie en tout cas, Sony a un test très simple qui consiste à lâcher le jeu sans input pendant 72 heures sur la console. Non-stop.
Ouais.
Et... ça va vite de se dire, c'est normal quand tu fais un jeu de ne pas avoir de fuite de RAM, de ne pas avoir d'accumulation, machin. Quand tu es sur une prod qui a duré 4 ans, qui a eu des problèmes, ainsi de suite, que tu arrives au bout et que tu essayes ça, en vrai, c'est pas évident. Ça demande quand même d'avoir une rigueur qui est quand même assez béton, en fait, sur ta programmation, pour arriver à survivre à ce genre de choses. Donc on n'est pas non plus sur des petits tests. Et où du coup les certifications sont importantes, c'est ce qui assure la qualité en fait de la plateforme. Et dans le cas typiquement des AA comme Microids, où typiquement ça va être Amplitude, Quantic Dream, Dontnod, donc en fait toute ce couche-là de studio en fait où on va être une centaine, peu au maximum 200, et encore c'est assez rare quand ça arrive à cette échelle. On n'a pas d'autre solution en fait. Que de passer par ce process. Donc c'est vraiment important d'être capable de dire ok, je suis 2 ans avant la sortie, je suis déjà obligé de réfléchir à
comment ça va se passer à
exactement.
La fin,
ouais, c'est ça.
Après c'est le genre de truc où tu te casses les dents sur le premier et après après tu fais je vais me le noter comme ça la prochaine fois ça sera pas
trop loading problème. Screen de 72 heures là.
Ah, ça te fait d'expérience, ça te fait beaucoup d'expérience. Après pour le coup là c'est un truc par exemple sur la série où pour Siberia 4 par exemple, j'ai écrit l'intégrité donc du code de la couche de pour la série. Et j'ai fait une petite partie donc d'accouche PS5, plus participer à l'optimisation pour le coup. Donc vraiment du ok, on va faire du profiling, on va regarder à instant T1, T2, T3, combien de RAM, combien de proc, ainsi de suite. Ok, T2, là on dépasse légèrement de 5%, faut que ça descende. Donc on va trouver une solution, on va prendre des ciseaux, mais. faut que ça déblaye quoi.
On en est à ce niveau-là de précision quoi.
Pendant une game jam, si une personne qui refuse de sortir parce que la RAM n'est pas.
Non, on veut pas. Tu poses pas sur itch.io, il y a trop de RAM qui.
C'est ça. C'est important.
Voilà, non, mais c'est. Tu vois, c'est par exemple, tu vas avoir les constructeurs qui vont te dire si vous êtes capable de faire tourner à 60 fps votre jeu, on peut vous mettre une petite vignette en plus sur la boîte. Trop cool pour dire 60 fps. Et donc, fatalement, tu vas courir après.
C'est
en
des achievements, en fait.
Ouais, c'est achievements rêves, quoi. Donc, ça te met une pression aussi technique là-dessus, mais...
C'est rigolo.
C'est ce truc-là.
Quoi. Et quoi d'autre comme achievement, hein?
Peggy 18.
Ouais, non, mais
non, mais il y a... Alors après, ça va dépendre des générations de consoles. Là, sur les dernières, vraiment sur la 9e, du coup, PS5 Series, on a le 60 IPS, on a le support complet des textures en 4K, donc support natif, pas d'upscale.
T'as les utilisations genre de la DualSense ou ce genre de truc ou...
Ah oui, ouais, c'est pour la PS5 par exemple, tu as le feedback haptique sur la manette. Donc ça aussi c'est encore une autre prise au chou parce que ça demande beaucoup de taf.
Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as ton jeu de base qui n'a pas forcément ce truc-là et après il y a des décisions je pense à avoir de fait de dire est-ce qu'on utilise pleinement ces fonctionnalités-là. Et donc c'est à vous porteurs de faire ça quoi.
En amont, si tu veux, sur la chaîne de production, typiquement dans le modèle d'MSP, on va avoir nos game designers qui vont être en mode. Si on fait, mettons qu'on ait eu souhaité de faire le feedback haptique, ça aurait été les game designers en mode ok, qu'est-ce que j'en fais par rapport au jeu?
Qu'est-ce que ça donne en plus?
Ouais, ou on veut pas juste un truc qui soit rajouté sur le tas, on veut que ça ait un sens quoi. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de réfléchir en amont à ok, je veux ce petit achievement, mais comment est-ce que c'est cohérent avec le jeu en fait? Pas juste faire un truc en vrac par-dessus. Ça n'a pas d'intérêt autrement.
Ouais, il faut que ça soit bien incorporé quoi.
Est-ce qu'il y a un achievement que genre personne n'a jamais eu? Et c'est un truc mythologique.
Un que tu verras pas souvent passer, c'est les 60 IPS, honnêtement.
Peut-être de plus en plus, non?
C'est une galère.
Ah, c'est chaud.
C'est chaud. Quand t'as vraiment de l'ambition sur tes projets, en vrai, tenir le 60 constant, ça peut vite devenir compliqué. C'est des trucs où soit tu... Typiquement, on a réussi à avoir le 60... 59,8
la fameuse temps
sur CIP 4, mais très clairement, c'est 2 mois d'optimisation qui ont été écoulés là-dedans pour arriver à obtenir ça sur la série X. Parce que c'est quand tu as 50 personnes seulement en studio pour un jeu qui, au final, est à mi-chemin vers produire un triple A. Il y a quand même un coût de production qui est lourd à sortir ça, en fait. Et ça fait que tu n'as que des très gros triple A, en fait, qui vont dire, nous, on s'en fout, on a 1500 personnes dans le studio.
Ouais, voilà, c'est faisable, quoi.
Qui arrivent derrière et qui te disent, oui, bon, on peut lâcher 300 ingénieurs sur le moteur, puis ça part, quoi.
On les enferme dans une pièce, on jette du pâté, voilà, comme on dit.
C'est toujours pareil. Toujours le pâté, c'est un dénominateur commun.
Le pire, c'est que je suis végé, tu vois.
Ça marche pas du tout, alors.
C'est compliqué. Du pâté végé.
C'est du pâté végé, du pâté de lentilles.
Du houmous.
Du houmous,
oui. Ouais,
allez,
un petit houmous, ça marche aussi. Vert, là, ça...
Bienvenue dans le podcast cuisine.
Nickel.
C'est comme ça qu'il faut avoir 60 IPS.
C'est avec du houmous au citron vert. Nickel.
L'astuce.
On l'avait pas jusque-là.
En dehors de la certif et vraiment de la côté finalité, c'est quoi le plus compliqué pour toi pour tout ce qui est portage? En termes de code, ou il y a vraiment des trucs qui reviennent assez fréquemment et où vous vous dites ah oui, ça c'est forcément ce problème-là parce que tous les portages ils ont ça.
C'est en fait c'est vraiment dépendant à la fois de ton projet, de l'équipe avec laquelle tu travailles pour le coup.
Ok.
Là, on bosse par exemple avec Unity comme socle, donc on a forcément des zones en fait du programme. On ne peut pas tant descendre que ça dedans, parce que fatalement, Unity sur se fermer, tout ça. Bon. Donc du coup, c'est... D'un côté, on va être capable de lâcher ça à nos level designers. On a toute une couche de jeu avec un super outil, trop cool. On peut faire plein de procs graphiques. Nickel. Eux, ils nous font le contenu.
Okay.
Mais en même temps, quand tu arrives au stade du « bon, il faudra implémenter les achievements sur console », où tu te retrouves à dire, ok, donc ça veut dire que d'un côté, j'ai mon level designer qui doit faire sa petite boîte dans son flow graphique pour dire, voici mes conditions et voici le moment où je veux déclencher l'achievement. Tu dois avoir ton game designer qui, en amont, a dit, l'achievement, en fait, je pense que il devrait être nommé comme ça, il devrait avoir telle description, machin, qu'il te sort un Excel complet avec ça. Ça passe derrière au graphiste qui te dit, bon, sur lui, en fait, l'intégration propre de ça, ça va être ça. Ça passe au prog UI qui regarde, qui fait, est-ce que je peux te le mettre correctement, bien comme il faut, dans le reste UI, tout ça. Exactement, qu'on n'ait pas, en fait, de résidus qui vont traîner, que ça se cale correctement avec les écrans, tout ça. Et toi, tu arrives en bout de course, tu es au niveau de la plateforme et où tu as ce truc-là de « Ok, j'ai une association complète de ça, maintenant, il faut que je discute avec les back-ends des constructeurs. »
Ça trigger leurs achievements.
Tout ça, ouais. Et en fait, tu veux faire un achievement, tu es obligé de tirer l'intégralité de la production, en fait, dans la boucle. Et c'est ce qui se passe, en fait, avec les portages, c'est que c'est toute la question de cette pipeline, et l'achievement, c'est un exemple, mais en fait, on a plein de domaines comme ça. Dans les problématiques de sauvegarde, du système de sauvegarde, qui est un enfer. Comment le designer envisage les sauvegardes, à quel rythme, ainsi de suite. Derrière, tu as comment le constructeur, lui, pense que tu devrais faire ta sauvegarde. Et donc, moi, j'arrive au milieu, je suis en mode, comment je fais pour réconcilier les deux ensemble et implémenter ça correctement.
Négociatrice, quoi.
C'est ça. Et donc, en fait, c'est de mettre en place ces pipelines qui vont convenir, du coup, à l'équipe de prod, qui vont être efficaces. Et qui, en même temps, passe la certification du premier coup, en fait, et où ça va changer avec ton équipe, ça va changer aussi parfois avec ton projet, parce que du coup, tu n'as plus les mêmes contraintes qui vont derrière, parce que d'un coup, le précédent projet, tu faisais pas tel truc optionnel, et à ce sujet-là, on te dit, ce serait bien si on y allait, et tu regardes, tu fais, j'ai pas prévu ça sur l'architecture.
Aïe.
Ok, on va recommencer, tu vois, ce genre de truc. Donc là, on essaye d'avoir un peu une approche... plus triple au niveau de VSPR qu'on n'est pas, mais on a pas mal, on est à 70 personnes actuellement, on a grossi cette année, donc on a eu pas mal d'embauches au niveau tech, et j'ai enfin quelqu'un avec moi qui est aux petits oignons pour travailler sur les consoles
en binôme, quoi.
Ouais, en binôme, donc avoir une deuxième personne à temps plein juste sur un moteur console, et ça a une valeur qui est super importante en termes de programmation. D'avoir quelqu'un, en fait, avec qui tu puisses faire des échanges, faire rebondir tes idées, avoir une vue différente. Et typiquement, là, c'est la situation qu'on avait. J'ai pris le parti de faire évoluer, par exemple, sur le projet actuel, NDA. Voilà. donc ça, c'est pas à peine de me poser la question.
NDA.
Pas à peine de me poser la question, mais c'est un projet actuel. J'avais pris le parti, de dire l'architecture évolue organiquement depuis les consoles. Parce que je connaissais par cœur les besoins de la PS5 de la série, de dire on va donner telle forme au programme qui part de ce truc-là. Et là, on s'est dit, on a quand même plusieurs storefronts, on aimerait implémenter les SDK, peut-être. Arriver à prendre des trucs de GOG Galaxy, d'avoir une intégration plus avancée avec Steam, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi du travail en supplément.
Ouais, c'est en dehors du jeu, mais ça en fait un peu partie aussi, quoi.
Exactement, en fait. C'est d'avoir un socle, une couche plateforme, en fait, qui soit capable de discuter avec tous ces éléments-là, tous ces stores, toutes ces consoles, qui passent absolument de partout. Et lui, il est arrivé. Il n'avait pas du tout le temps, du coup... que j'ai eu passé sur CyberA4, sur ce projet-là, cette année et demie complète, en fait, de travail dessus. Moi, j'en étais là, sur mon architecture.
Le fameux moment.
Et où il arrive, il regarde et il fait « Ok, alors en fait, ce truc-là, là au milieu, il ne sert à rien, on pourrait juste compresser l'intégralité et d'une pertinence splendide. »
Ça, où ça me plaise.
Et où le seul moyen de le voir, en fait, c'est de ne pas travailler dessus, c'est d'arriver dessus justement avec cette nouvelle paire d'yeux et d'être en mode « Ouais, non, mais en fait, ça, tu peux l'enlever, en fait. Tu peux retirer ce brique-là. » Et c'est génialissime, en fait. Et c'est
toute la pile qui est...
Ça permet, en fait, de vraiment recompacter tout, d'avoir un truc qui soit plus propre, plus maintenable, et ainsi de suite, et où c'est pas seulement une question de bas niveau, pour le coup. C'est une question de la programmation en général. il y a un réel avantage à avoir cette deuxième personne avec toi pour pouvoir faire ses allers-retours, en fait. Parce que très rapidement, tu arrives dans cette situation de ne plus pouvoir prendre de distance, quelle que soit la manière dont tu t'y prends. Et où il te faut absolument ce feedback critique, en fait, ce retour d'expérience de l'autre qui a regardé, qui a dit « Ah bon, ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Est-ce qu'on peut en rediscuter ?» Ah, donc...
Putain, non, ce truc de la fameuse théorie du canard en plastique, hein, où c'est juste tu donnes tous tes problèmes à un canard en plastique que tu as sur ton bureau, et en fait, bah, c'est là que tu te rends compte que c'est toi qui as la solution et que...
Ouais, en l'expliquant, ouais. Et tu te rends compte.
Ah oui, en fait, c'était ça. Alors là, il y a cet avantage encore plus qu'il a la connaissance, et donc c'est un bon canard en plastique.
C'est le vocaliser, en fait.
Ouais, c'est ça.
T'aides vraiment, effectivement, à solutionner un problème sur le moment. Là, effectivement, il y a cet avantage en plus de... On a des socles de connaissances communs, on a une expertise qui est commune, et où c'est ce plaisir aussi de partager, de nerder ensemble sur le même truc, et d'être en mode, ok, je commence à te dire un truc, et tu sais immédiatement de quoi je te parle. Je ne vais pas être obligé d'expliquer un socle entier, en fait, en dessous. C'est tac, immédiatement, tac, et ça fait tellement plaisir.
Cool, ouais, c'est phénomène d'équipe. Comme les skippers dans les bateaux qui communiquent pas, ils sont connectés, quoi.
Bah, c'est ça, c'est le but, c'est d'arriver à trouver cette personne. En fait, faut trouver en fait son partenaire de programmation,
son double bénéfique, je dirais.
Pas mal, ça. Ouais, non, c'est
trop cool. Très cool. Moi, j'avais une question un peu plus personnel que je me pose. Est-ce que tu as testé genre, alors pas des portages, mais de faire des jeux sur des plus vieilles consoles, genre sur des Game Boy, sur des NES,
pour venir à l'émulation, voilà. Tout ça,
Le côté main dans le cambouis marche bien sur les vieilles consoles, donc c'est pour ça que
c'est une grosse envie. J'ai récupéré la dock de la PS2 parce que ma console de cœur, alors qu'en fait d'un point de vue technique c'est une horreur, mais c'est
big up à Sony, hein.
Désolé, on parlait de vous depuis tout à l'heure là, mais
et pourtant je continue à jouer à Tony Hawk Pro Skater 3 sur ma CPS2.
Le meilleur,
voilà.
C'est big up à la BO de Tony Hawk aussi, c'est parfaite.
Petit ange parti trop tôt aussi,
RIP.
Ils n'ont plus la licence, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais non, c'est cette blague-là de « j'adore cette console ». Mais en même temps, à l'époque, quand ils l'ont sorti, le proc qui est embarqué sur la PS2 est un proc custom construit par Sony.
Oui.
La documentation n'existe qu'en japonais, par défaut. Sony n'a jamais pris la peine de la localiser. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la phase PS2, les AAA qui sortaient, en fait, en interne dans les studios, ils avaient une localisation fait main.
Qui gardaient pour eux.
Et en fait, ils partageaient ça entre les studios de AAA, en fait. Et donc, ça circulait comme ça. C'est que le seul moyen, en fait, que des gens non japonophones soient capables, non nipponophones, je suppose.
Ouais, et encore qui ne parlent pas le technique du langage, en plus.
Le public ne sait pas.
Ça, mais c'est le truc, c'est qu'en fait, c'est que avec un CPU custom, c'est déjà problématique, par défaut, parce que tu peux pas te baser sur ta connaissance générale, en fait, de la programmation. Tu vas être obligé d'adapter des trucs de logique qui n'ont pas, en fait, de points communs avec des antécédents. Et en même temps, tu te retrouves dans la situation du « ok, j'ai la barrière de la langue en plus qui tombe dessus
».
Et en plus, la majeure partie des studios, en fait, n'ont même pas la capacité linguistique de traduire ça. Donc du coup, c'est « ok, comment je fais pour y aller ?» Et donc, en fait, ce que tu trouves maintenant en anglais comme doc sur PS2, tu es trop facilement, mais on reste quand même sur une approximation, en fait, de ce que Sony a...
vraiment le truc bien précis, quoi. Donc, il faudrait faire un portage de la doc avant de faire un portage des jeux, quoi.
Ah, mais c'est splendide. Mais du coup, ouais, non, j'ai vraiment envie de bosser sur la PS2, mais...
Quand le hobby touche le dev, quoi.
C'est ça.
Mais Sony, ils ont fait ça pour chaque console, en plus, je crois, que la PS3, c'était encore un truc différent.
PS3, c'était The Cell.
Ouais.
C'était de nouveau un CPU custom. Et à partir de la PS4, c'était un Intel.
C'est plus drôle.
Ils ont commandé un Intel et après, ils sont allés voir AMD. Parce que je sais qu'il y a une version de PS4 qui existe avec un Intel, qui est un truc qui a quelques unités qui se baladent, et en fait la majeure partie ce sont des AMD en fait qui traînent, hein. Donc c'est un peu cette blague là de tomber sur des ovnis comme ça, et toute la phase PS2 PS3 ça a été un enfer. Pour les devs de l'époque, tu voyais quand même qu'il y avait beaucoup plus de pression au niveau relation avec les constructeurs qu'on a maintenant. Maintenant, tu arrives, tu as ton SDK intégralement documenté en plusieurs langues, tu es beaucoup plus tranquille là-dessus, c'est beaucoup plus rare que tu aies besoin d'aller poker le constructeur pour lui dire au fait,
ça marche, ça.
C'est ça, c'est, tu peux déjà l'appréhender plus simplement.
Après, quand tu vois la palanquée de jeux qui sont sortis sur PS2, tu te dis, ils ont quand même intérêt à les aider, quoi.
Historiquement, ça a été la console avec le plus gros catalogue de jeux
sur
une seule et même plateforme. Ouais,
c'est la folie curieuse.
Tu sors ton manuel dans une langue que personne parle en dehors du Japon.
C'est dingue. Il y a le principe des dev kits pour les consoles, donc le fait qu'il y ait des machines qui soient en ouverture totale d'un point de vue ingénierie.
Ouais.
Et donc, qui, du coup, tu ne peux les avoir que sous contrat de licence avec le constructeur. Et ces dev kits, il y en a pour la PS2. Il existe des dev kits PS2. Et en fait, il y a une anecdote rigolote qui va avec ça, c'est Squaresoft, et en particulier Square Enix derrière. Final Fantasy XI. Final Fantasy XI a une durée de vie monstrueuse sur la PS2. Sony a été obligé de fournir, en fait, au début, toute une série de dev kits à Squaresoft sur le début de développement, en disant, ok, on vous fait un contrat spécial, on vous en file plus que ce que vous en avez besoin, parce qu'on sait que vous allez être sur le long terme. Donc on y va. Sauf que ces trucs ont une durée de vie, qui est quand même relativement courte, et ils se retrouvent dans la situation de les dev kits qui faillent les uns après les autres, et de dire, ok, Sony est déjà passé à PS3, le dev kit PS2 est quasiment impossible, du coup, à contractualiser maintenant. Comment on fait? Et d'arriver de plus en plus à galérer à mettre la main sur les unités de dev kit, et d'avoir plein de studios qui ont fermé, qui ont gardé leur dev kit et ils n'ont jamais renvoyé en direction du constructeur, et qui, du coup, ces dev kits retombent sur eBay.
Ah.
Et donc d'avoir Square qui arrive derrière, qui draine en fait littéralement le marché d'occasion.
Les scalpers, quoi.
Pour arriver en fait à maintenir FF11 en ligne sur la PS2. Parce qu'ils ont arrêté le service PS2 il y a quelques années seulement. C'est de la folie furieuse. En fait, les dev kits PS2 sont plus accessibles facilement maintenant à cause de ça, parce qu'ils sont quasiment tous stockés chez Squaresoft. En fait, parce que c'était le besoin de maintenir en fait FF11 debout en fait.
Dans une cave.
Ouais, non mais c'est de la folie furieuse.
Ce qu'il faut retenir, c'est que si Square Enix est en difficulté, regardez eBay. Ouais,
c'est ça. À cause des dev kits de PS2.
Grosse virgule. Game Jam.
Ah.
Tintintin.
On a
vu que tu avais fait des Game Jam, notamment en 2017.
Et même avant. J'ai un historique. J'ai participé à plein de Game Jam en ligne. Alors que ce soit en solo ou en équipe, mais avec des gens que je ne connaissais pas du tout. C'est souvent des équipes internationales aussi.
Des ludums, des choses comme ça, du coup.
C'est démarré sur c'est justement, c'était mini ludomner qui était vraiment bien, parce que c'est beaucoup plus simple d'accès. Au démarrage, c'est moins effrayant, il y a certaines questions sur des durées plus longues, donc c'est plus accessible. Et du coup, effectivement, monter derrière sur ludomner, essayer de faire un petit truc par-ci par-là. Une grosse expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'était la Nordic Game Jam à Copenhague en 2016 pour le 10e anniversaire. C'était nickel, on avait la.
C'est sur place et tout ça, non?
Ouais,
vous étiez combien?
En 2016, on était 700.
Ouais, vache.
Dans l'université d'Aalborg, la plus grosse université tech de Danemark.
Et il fait froid dehors. Donc faut rester à l'intérieur.
Oui, non, moi ça me va. Moi, ça me va. C'est pas un souci, ça. Mais ouais, la NGJ, donc pour le 10e anniversaire, on avait en plus on a un gros cinéma dans Copenhague qui avait été loué. pour avoir la projection en grand écran à la fin des
de
jeux.
La restitution.
Ouais, c'était trop cool. Wow. C'était vachement cool. Et ouais, c'est une ambiance qui est folle, en fait, quand t'es dedans, parce que tout le monde est à fond de balle dedans. Ouais. Et donc, du coup, bah, t'ouvres en n'importe quelle pièce, t'ouvres en n'importe quelle porte, et derrière, t'as des gens qui sont en mode à fond de balle. Ouais,
ça c'est vraiment
dans la cuisine.
Là, ouais, voilà. Il y en a au plafond aussi qui codent. Non, mais vraiment, non, il y en a partout.
C'est génialissime. C'est génialissime. C'était une bonne expérience. Faut y aller en mode. Pas se mettre d'objectif.
Faut s'amuser.
C'est ça. Faut vraiment y prendre en mode, ok, juste pour le plaisir. Là, cette année, je vais enfin pouvoir y retourner. Là, c'est 2024, pardon. Désolé, petit.
Il était choqué.
RIP. Ouais, la NGJ 24, ah, j'y vais. C'est, elle est à la troisième semaine d'avril. Petit retour là-bas. Sachant qu'en plus, ce qui est trop cool, c'est que tu as deux journées de conférences avant de démarrer la jam. Cool, donc, tu as conf plus possibilité de poser des rendez-vous aussi avec d'autres personnes de l'industrie. Donc, d'être en mode bien paquet. Je sais qu'il y avait une édition, je crois que c'est celle de 2019. Ils étaient 1200, je crois, une curie comme ça. Elle a pris en ampleur au fur et à mesure.
Ça fait la taille d'un studio triple A, quoi.
Ouais, c'est voilà. Et voilà. Mais ça attire des
sponsors. Il y a une équipe de portage.
On a fait une équipe.
Au Game Jam.
C'est... Ce sera un peu compliqué, quand même.
Game Jam de portage ou...
Ouais, c'est sur 48 heures, non. Ça,
ouais, parce que tu peux pas passer le test des 72 heures, déjà.
Ah bah, déjà, ouais.
Ouais.
Déjà,
ah oui, c'est mort. Ça, c'est foutu, ouais.
C'est foutu.
Mais ouais. Non, c'est... Essayer de faire un peu tout ça, j'ai fait la globale.
Qui est dans fois. Une semaine, ouais. Que vous verrez pas parce que le podcast sortira après la globale.
Inscrivez-vous
dans le passé.
Parfait.
Ouais. J'ai rencontré des amis qui me sont chers maintenant sur les Global Game Jam, hein, de pouvoir profiter. Et pareil, d'aller sur site à Lyon, à Strasbourg, de profiter un peu justement de dire ok, ça attire autant des amateurs que des professionnels, que des étudiants. Et où du coup, tu as une grosse diversité en fait qui se ramène. Et c'est vraiment agréable, quoi.
Ouais, puis même en termes de compétences, parce que tu vas avoir des designers, tu vas avoir des développeurs, tu vas avoir des sound designers, tu vas avoir un peu tout, des scénaristes, etc. Et c'est ça qui est cool. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les game jams, c'est cool. Mangez-en.
Ouais, on n'est pas biaisé du tout.
Non.
À peine. Non. Moi, je vais peut-être. Je vais ouvrir une controverse. Je vais mettre un petit bémol à ça.
Oh.
Ah.
Non, pas de ça.
Il faut y aller exclusivement pour le plaisir.
Oui. Couper son micro.
Non, mais c'est parce qu'en fait, le format en 48 heures. Est trop court et je pense que c'est une vraie considération à avoir de quels sont tes objectifs, pourquoi tu vas à Game Jam et donc du coup du temps que tu as à disposition et où en 48 heures c'est tu vas pouvoir faire un jouet au sens ludique, tu vas difficilement pouvoir faire un jeu en fait, d'amener des vraies structures de règles et autres derrière et où du coup ça va devenir un truc où tu vas pouvoir tester un petit truc. Ce qu'il faut, c'est focus, une mécanique. Ouais. C'est ça, c'est de dire, ok, je me prends une mécanique qui est simple, je la polish à mort, en fait. Je teste tout ce que je peux avec et je fais le plus possible de polish dessus. Mais si tu as plus d'ambition que ça, le format de 48 heures va devenir dangereux, en fait. Parce que tu vas avoir trop vite tendance à stresser, à te mettre de la pression dessus, ainsi de suite. Et où, du coup, c'est de base avoir cette clarité d'esprit de dire, ok, qu'est-ce que je veux en tirer? Pourquoi je viens là? Et si... Et ça, c'est, je pense que pour le coup, c'est bonjour les étudiants. Si vraiment le point de départ, c'est juste, je veux mettre un truc sur le portfolio en disant, hey, j'ai fait une game jam, machin, et que tu y vas en te disant, c'est ça mon objectif, il faut que j'en tire quelque chose de significant, de significatif, et que tu n'as que 48 heures pour faire, non, c'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, c'est faites des game jams pour le plaisir, amusez-vous, ne mettez pas d'objectifs, partez de manière organique, expérimentez, faites des trucs de fou, faites des trucs qui n'auraient aucune chance d'être financés par qui que ce soit. C'est explorer, pousser les limites, aller justement sur tout ce que vous pouvez, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes de design, en termes de graphisme. Je me suis retrouvé dans des équipes de jam, qu'avec des progs. Qui décide? On fait tous des bonhommes bâtons. Donc, à un moment, on va...
qui s'en paye? Et on y va, c'est parti.
Mais voilà, c'est ce genre de truc. Où, du coup, c'est clair et net que tu ne pourras pas en tirer quelque chose de valable dans le sens « je veux un portfolio pour chercher dans l'industrie ». Mais si tu n'en fais pas non plus, c'est t'as pas non plus en fait cette expérience de dire « ship it, va jusqu'au bout, finis-le ». Le plus important, la chose la plus importante, il y a une seule chose à retenir en tout ce que je déblatère, c'est « finissez les projets, finissez les projets ».
Ah, c'est plus dur.
C'est
hein.
aller jusqu'au bout. Ouais. C'est ce truc-là. Et si vous avez 48 heures, coupez tout ce qui ne rentre pas dans 48 heures. Et c'est souvent, on a ce power creep, en fait, c'est ce feature creep qui arrive aussi derrière de ça serait bien si je pouvais juste rajouter ça. Non, c'est Mario, il saute. C'est ça. Mario, il saute. Est-ce qu'il se déplace latéralement? Je sais pas. Mais il saute
super bien.
Il a intérêt à sauter, génial. Ouais. Mais tu vois, c'est de dire au stade de je suis même pas sûr qu'il aille de gauche à droite, tu vois. Même ça, on le ferait sauter. Enfin. On chifferait, voilà, on couperait ce truc-là, mais juste de dire, ok, t'as une mécanique, on va, principe du rasoir de cam, est-ce que ça sert l'expérience? Non, ça gère. Fin de l'histoire. Mmh. Et on fait en sorte que tout rentre en fait dans ce projet-là. Ben, c'est ça qui aura le plus de valeur en bout de course, qui sera le plus appréciable, autant pour le joueur qui a développé, qui a produit, et même d'un œil extérieur, si on a une ambition professionnelle. Ça va aussi être ça. Es-tu capable de finir? Je veux pas un système ultra complexe. Je veux quelque chose qui soit fini. Que la personne ait été obligée d'aller à travers toutes les étapes, les unes après les autres, de toutes les enquiller, d'avoir cette expérience, ce vécu. Même si le résultat est un fail. Je veux que tu finisses.
C'est un plombier qui saute. C'est parfait.
C'est ce qu'on voulait.
Mais c'est ça. On le sous-estime souvent, cet aspect-là. Et j'ai vu énormément d'étudiants en JAM faire cette erreur, en fait, de se dire, ok, et je l'ai faite moi-même, hein, je suis totalement fautif de ça, de dire, est-ce que je peux foutre ça dans les portfolios? Et j'ai vu nombre d'autres personnes, en particulier dans les Global, entre autres, et pas de chance, ça sort après. Mais je vous jure que si vous avez l'œil un peu, vous verrez effectivement des étudiants qui vont stresser et prendre le temps juste d'aller voir, prends un café. Prendre l'eau.
On en revient au break. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est maîtriser votre temps et se reposer, ça fait partie vraiment de l'essentiel. C'est pas de nuit blanche, c'est une mauvaise idée.
Ouais, bah ça.
Faire des horaires respectables. Si vous avez envie de sortir avec des potes pendant le week-end, faites-le. Si vous prenez un break d'une ou deux heures juste pour aller visiter la ville, c'est nickel. Prenez le temps. Quoi.
Allez faire une autre jam à côté.
Mais plus courte.
Très mauvaise idée.
On a des gens qui nous avaient dit justement que ouais, la game jam, c'est l'apologie du crunch. Parce que bah, de facto, c'est 48 heures, il y a un timer. Et voilà, on essaye de s'y tenir. Après, le truc, c'est que nous, clairement, c'est pas du tout notre objectif là-dedans. C'est plutôt de se dire... allez, on se met un challenge pour ça. Et bah, comme tu dis, hein, c'est peut-être un premier niveau où c'est un concept qui va être intéressant et qui va permettre peut-être par la suite de te lancer sur un projet de plus grande envergure. On a des tas d'exemples de jammers qui ont commencé un jeu et qui s'en sont à la prod. Hein. Là, on a Sushi qu'on a eu. Le lien est juste là. Qui a fait son jeu en Game Jam. Et voilà, il a continué à la suite de ça. Et je pense que faut le voir comme un POC et faut le voir comme un amusement, quoi. Et pas un devoir de se dire ben, j'y vais et faut que je sorte quelque chose de ça, quoi.
Je pense aussi que c'est une question de. C'est une vraie discussion, quand même, cette question de le crunch comme fléau dans l'industrie et qu'est-ce que la Game Jam est en train de dire par rapport à ça. Quel mindset en fait qu'on est en train de refléter publiquement sur les cercles en dehors de l'industrie par quelque chose qui est accessible à un plus grand public. Et il y a une vraie discussion à avoir là-dessus, c'est un problème qui est sérieux en fait à prendre en compte, mais où en même temps c'est pas une fatalité. C'est juste une question de ok, comment tu organises en fait ta jam Et du coup, de donner cet espace, en fait, créer un espace qui soit safe là-dessus, qui permette aux gens justement de respirer. C'est de dire, pas empêcher ceux qui souhaitent d'être compétitifs, mais quand même garder un œil sur le mon coco, si t'es en train de dormir sur place, j'espère au moins que t'as un lit en fait. Juste, je veux pas avoir quelqu'un en train de dormir par terre dans la pièce.
Ouais.
Et pareil, si je te chope en train de faire une nuit blanche, je vais t'obliger à dormir en fait. Je t'abats à la fléchette ou un truc comme ça, mais c'est d'arriver à créer en fait, forcer des règles de vie saines en fait, forcer un espace qui soit safe pour permettre justement d'empêcher se dérouler en fait le fait que ça parte en spirale, en crunch, en mode, en stress et tout ça. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation derrière, de règles de vie, de règles d'interaction, et de donner des espaces qui soient tranquilles aussi en termes physiques, de pouvoir se sortir en fait complètement de cette ambiance-là.
À la cool, un peu. C'est important aussi.
Bah, venez au Game Jam d'Indico, parce que nous, on a vraiment cette culture de « on se la fait à la cool
».
On essaye de faire des thèmes sympas, et puis, mine de rien, on prend le temps de prendre le temps aussi, c'est important.
On a des
aussi.
Achievements fun.
Ouais, voilà. Des achievements de trucs cool à côté de la
jam. On fait de la bonne bouffe.
Voilà. Et on fait des bons jeux vidéo, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais les gens font toujours des trucs de fou.
Ouais.
Et voilà, c'est ça qu'on... Ça peut bien terminer ce podcast sur une note positive, je pense, que plutôt que l'apologie du crunch.
Donnez tout ça à Rennes.
Et voilà, si vous cherchez des game jams sympas, Indico, c'est cool.
C'est ça.
Et je sais pas, la régie, pas de choses à dire, le public ?
La régie est silencieuse.
Ah, le public.
Ah,
c'est quoi la suite ? Une bonne question. C'est quoi ta suite à toi?
Je vais porter GTA 6 sur PS2.
Sur NES.
Oh. Alors, cette année, la suite, la Nordic Game Jam.
Oh yes.
Voilà. NDJ aussi.
C'est, voilà. Donc pour le coup, c'est fête et Game Jam, bien. Faites-le proprement. Derrière la donne, fatalement. Donc deux semaines d'affilée en avril, je vais être. Je vais être bien secoué, mais ça, c'est.
Voir tous les gens que j'aime. Pour un bien, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est de retrouver tous les gens que j'aime dans ces conférences, quoi. Donc ça va être cool. Ça va être aussi essayer de se balader un peu à droite à gauche, voir s'il y a d'autres confs sympas. Je suis en train de me poser la question pour le Game Camp. Ça aussi, là on est sur vraiment un conf purement industrie. Puis même voir un peu, peut-être un peu plus loin, aller poker les trucs du style le X-Fest ou ce genre de bestioles, en fait. Donc les confs de Microsoft en mode tech, .NET et compagnie.
Donc rapprochement de Xbox peut-être finalement.
Ah, j'aime beaucoup la série. Honnêtement, c'est un de mes défauts. Mais j'adore la série. Je l'adore, cette plateforme. Il y a des vraies promesses dessus. Mais voilà. Puis autrement, non. C'est en ce moment où je travaille donc, sur un projet sous NDA, fatalement. Pas encore annoncé. Sorti peut-être. Avec un gros peut-être cette année. Je n'ai pas
l'air. On est en janvier.
Je confirme, j'infirme pas, mais c'est dans un carton. Et travailler aussi sur on a d'autres projets en parallèle.
Ouais, t'as déjà potentiellement une suite à ça,
c'est
quoi.
C'est ça, ouais. C'est donc pas mal de jeux
à faire à suivre, quoi.
Yes. Ça va être ça.
Excellent.
Ok, trop cool. C'est bon, le public, tout est bon. Ok, le public fait des pouces en l'air. Mettez un pouce en l'air sur YouTube, je vous en prie.
Pas de numéro vert encore.
Puis,
donc...
on peut que te remercier, Blanche, d'être venue faire ce podcast avec nous.
Un grand plaisir
d'avoir pu en apprendre un peu plus sur le portage qui était... je sais pas, Chris, est-ce que toi, tu connaissais un peu le monde du portage ou...
Non,
c'est
pas
juste
du tout.
Tu portes des meubles. Tu fais que ça.
Non, c'est super intéressant. Effectivement, je connaissais un tout petit peu le fait que les architectures Sony sont un peu louches, que c'est pas très clair tout ça. Mais j'avais aucune idée de la technicité derrière tout ça. Donc c'est intéressant de pouvoir creuser toute la partie dev.
Ouais, non, c'est vraiment, c'est, ça, c'est un peu ça, c'est le terrier du lapin dans Alice. C'est que vraiment, c'est, je vous enjoins à aller voir une conférence de l'an dernier d'Elias Farhan, qui est quelqu'un que j'adore. Bordel, ce mec est génial. Conférence à la donne, donc elle est disponible sur YouTube, simplement, sur l'optimisation à bas niveau pour les jeux vidéo, en particulier, effectivement, si on est sur une plateforme Unity, ok, ouais, c'est pas grave. Même si Unity en a beaucoup, on s'en fout. Comment on descend à l'optimiser, à arriver en fait à l'assembleur, et comment on réfléchit à cette question de ok, tout à pile. Et il y a tellement d'informations, il y a tellement de trucs cool là-dedans, et c'est un peu sa blague qu'il avait dans l'intro de tu démarres dans le gameplay à programmer ça, et tu commences à gratter la surface et tu vois des trucs en dessous. Et si t'as un peu de curiosité, tu finis en fait par rentrer dans le terrier du lapin. Ouais,
et là, c'est foutu.
Et à partir de là, c'est foutu parce que tu descends de plus en plus bas en fait. Et c'est génialissime. C'est génialissime. C'est que ça s'arrête jamais.
Bah, trop cool. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, j'ai fait une faute de...
Oh mon Dieu.
Ok, c'est toi qui
raconte. Tout de suite, quand seul, je suis là. Ah,
je serai remplacé. Non, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et puis, ben, Global Game Jam, vous ne la verrez pas, mais voilà. C'est la semaine prochaine.
Oui. Inscrivez-vous dans le passé.
Et on se retrouve dans le passé. Voilà. Et on se retrouve pour le prochain podcast qui sera potentiellement le mois prochain. Et voilà. Et on vous fait des gros, gros bisous.
Yes.
Allez, à ciao.
Salut.
Bye.